Salut à tous et merci d'être là. Oui, on a tellement peu l'habitude des tables rondes qui est suffisamment bien gérée pour finir avant l'heure pour qu'on soit pas encore tout à fait prêt. Donc nos derniers intervenants vont arriver dans les minutes qui suivent et on va commencer tout de suite. Peut-être déjà commencer par vous présenter ceux de nos participants qui sont déjà là. Donc tout au bout de la rangée, vous avez Yannick Rupala, qui est un universitaire spécialiste de sciences politiques, et en particulier qui a beaucoup travaillé sur le développement durable à l'université de Nice Sophie Antipolis. À ses côtés, Andreas Esbar, que j'ai à chaque fois présenté en expliquant qu'il n'était pas la peine de le présenter. C'est plusieurs fois qu'on se met ensemble sur des panels. Je pense que vous le connaissez tous, sinon protestez si Andreas est un inconnu pour vous, mais c'est un auteur allemand qu'on voit très souvent aux Utopiales maintenant. Je crois d'ailleurs que tu vis partiellement en France. L'auteur en particulier très remarqué il y a quelques années de milliards de tapis de cheveux que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu, qu'on peut considérer, je pense, maintenant comme un classique de la science-fiction récente. À ses côtés encore Jean-Marc Ligny, lui bien français, qui hante la science-fiction depuis plusieurs décennies maintenant, et qui depuis quelques années s'est intéressé de très très près aux thématiques écologiques, avec en particulier AquaTM il y a quelques années, et plus récemment la suite d'AquaTM. Je t'avoue que le titre m'échappe sur l'instant. Exode, absolument. Merci. Et nous attendons Gérard Klein, qui ne saurait tarder. Alors Gérard, c'est le grand monsieur de la science-fiction française. Là encore, je ne sais pas si c'est la peine de le présenter. C'était un auteur déjà classique à la fin des années 50 et pendant les années 60. C'est un des auteurs les plus reconnus en France il y a quelques décennies, qui depuis s'est reconverti vers l'édition. Il a été le directeur de plusieurs collections mythiques. Vous connaissez tous probablement la grande anthologie de la science-fiction, où toute une génération d'amateurs de science-fiction ont fait leur gamme. Vous connaissez probablement aussi la collection Ailleurs et Demain, dont il est le fondateur. Il a longtemps dirigé la collection science-fiction du Livre de Poche. Et par ailleurs, Gérard Klein est un prospectiviste et un économiste. Donc, double casquette de... non pas de scientifique, mais de spécialiste des sciences humaines et de l'économie, et d'auteur et d'éditeur de science-fiction. Bon, on va peut-être démarrer malgré tout, en espérant que se fera arriver à Gérard. Donc le seul que je n'ai pas présenté, c'est moi-même, Éric Pichol, je suis physicien. La seule raison pour laquelle je vous le précise, c'est que, assez curieusement, les organisateurs des Utopiales ont décidé de faire... modérer cette table ronde sur les ressources naturelles et la démocratie, donc qui est quelque part entre l'écologie, les sciences politiques, la philosophie politique, par un spécialiste des sciences dures. Donc la question qu'on peut se poser, ou que je peux me poser en tant que scientifique quand on me parle de ressources limitées, puisque c'est le titre de notre table ronde, ressources limitées et démocratie, c'est qu'est-ce qu'on peut bien entendre par là, et quelle approche la science peut-elle nous donner ce genre de choses. Et je veux dire que le réflexe du scientifique est passablement négatif. Comme physicien, je vais tout de suite penser au second principe de la thermodynamique. Alors là encore, je ne sais pas si combien d'entre vous ont des souvenirs de lycée suffisamment proches. Enfin, un des très grands physiciens français de la première moitié du XXe siècle, Léon Brillouin, traduisait le second principe de la thermodynamique par une sentence de mort par enfermement. C'est-à-dire que si vous mettez un système, quel qu'il soit, dans un système fermé, sans interaction avec le reste du monde, à terme, le terme pouvant être extrêmement long, il est voué à la mort, il est voué à disparaître dans un état essentiellement de désordre total.
J'ai un contre-exemple.
Vas-y. Alors, Jean-Marc Ligny, auteur de science-fiction et bientôt prix Nobel de physique.
Mais il s'agit d'un système biologique et plus précisément végétal. Alors, je ne sais pas si ça entre dans le cadre de ce que tu disais, mais j'ai vu une fois sur Internet, bon, sur Internet circule tout et n'importe quoi, mais là, il y avait quand même un article détaillé avec la photo d'une plante qu'on avait enfermée dans une bouteille avec un bouchon, sans l'arroser ni rien, qui a été enfermé pendant 50 ans et qui, dans cette bouteille, a développé son propre écosystème. Au lieu de crever dans la semaine, comme aurait fait n'importe quelle plante, d'elle-même, elle a bourgeonné, elle a produit... Bon, évidemment, elle avait un peu de terre au fond, à la base. Hein. Ce n'était pas juste une tige et des feuilles. Donc, une plante avec un peu de terre. Et donc, elle a créé son circuit d'eau, son cycle d'eau, ses propres... renouveler sa terre avec ses propres déjections organiques, je dirais, et reproduit un micro-cycle végétal dans cette bouteille qui était genre une dame Jeanne, tu vois, une grosse bonbonne quand même.
Bon, on connaît effectivement des systèmes de ce genre, simplement ce sont effectivement des systèmes fermés où ce sont, dans ce cas-là, un système presque fermé parce qu'il y a quand même besoin de lumière et d'apport.
Oui, il y a la lumière du soleil.
L'argument thermodynamique ou l'argument mathématique, puisqu'on peut retrouver, s'il y a des mathématiciens dans la salle, le théorème de Volterra, par exemple, dit essentiellement la même chose que le second principe de la thermodynamique en physique. Le théorème de Volterra, c'est un système, c'est en gros que tout système prédateur-proie ou tout système consommateur-ressources limitées, à un moment ou à un autre, va tomber à une situation de population nulle. Mais surtout, la clé d'histoire, c'est le « à un moment donné ». Le second principe de la thermodynamique vous dit par exemple que l'univers a une durée de vie finie, que dans un futur fini, l'univers sera un désert tiède. Mais dans un futur fini, on parle quand même de milliards, de dizaines, voire de centaines de milliards d'années. Donc ce n'est pas nécessairement pour demain. Et on peut effectivement avoir des systèmes extrêmement durables sur des mois, sur des années, et sans avoir à remettre en cause le second principe de la thermodynamique. Et donc la question que je souhaitais vous poser, en fait, c'est, visiblement ma lecture de physicien n'est probablement pas la bonne pour ce genre de choses, mais comment faut-il interpréter cette notion de ressources limitées ? Est-ce que c'est une renonciation à se battre contre le second principe de la thermodynamique, le constat que nous sommes dans un système fermé, qu'on fera ce qu'on pourra avec les ressources qu'on aura pendant un certain temps, mais que de toute façon l'humanité étant vouée à l'extinction, c'est pas la peine de chercher beaucoup plus loin. Est-ce que c'est une renonciation à l'ouverture, puisque la clé, aussi bien chez Volterra que chez les thermodynamiciens, c'est la notion de système fermé. Une solution pour sortir du second principe de la thermodynamique, c'est effectivement d'ouvrir le système, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ça a été la solution majoritaire de l'humanité pendant des siècles. La raison pour laquelle on n'a jamais été confronté à des pénuries de ressources, ou très rarement confronté à des pénuries de ressources, c'est parce qu'il y avait toujours de nouvelles terres à conquérir, de nouveaux lieux à conquérir, de nouvelles techniques à développer. Donc les ressources nouvelles, la nouveauté, c'était l'intelligence humaine, c'était la possibilité de créer de nouvelles technologies, c'était la possibilité d'explorer de nouvelles terres. Est-ce que parler de ressources limitées aujourd'hui, c'est un constat que, ma foi, on n'est plus capable de faire ça, on a conquis la totalité de la Terre, on n'est plus capable d'aller plus loin? Ou est-ce que c'est simplement un choix méthodologique qui revient à dire que on est bien conscient de toutes ces questions à très long terme qui peuvent intéresser les physiciens et les mathématiciens, mais on va s'intéresser, quand on fait des sciences humaines, à ce qu'on est capable de gérer, c'est-à-dire le très court terme. Yannick, tu as une réponse.
Alors, j'ai commencé par faire mon politiste qui interroge les catégories. Hein. On peut faire l'hypothèse relativement optimiste que l'introduction du terme de ressources est déjà la manifestation d'une forme de prise de conscience. Donc, moi, je le vois à travers mes travaux, hein, où on peut effectivement considérer, et on le voit au fil des années, hein, la montée effectivement du terme de ressources, qui est une manière d'interpréter les problèmes. Donc, moi, c'est ce que j'ai appelé la tendance à la ressourcification, qui a été aussi repérée par d'autres auteurs, et qui est aussi la manifestation d'une forme de montée d'une rationalité économique. Parler en termes de ressources, je ne sais pas si vous le sentez, c'est déjà une catégorie de rationalité qui s'impose à un problème. Et on aurait pu tout à fait utiliser d'autres catégories et d'autres rationalités. Donc, de même qu'on a vu se déplacer, aujourd'hui on ne parle plus de personnel, on parle de ressources humaines. Et on est en train d'assister au même déplacement pour les catégories écologiques. Et il y a des implications tout à fait fortes. Peut-être ne le sentez-vous pas, mais raisonner en termes de ressources, c'est embrayer plutôt sur une rationalité économique et plus précisément sur une rationalité gestionnaire et calculatoire. Et ça ouvre vers d'autres formes de... Et c'est là où c'est ambigu, c'est que ça ouvre vers des formes d'exploitation, voire d'instrumentalisation de la ressource. Donc, je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est une forme de raisonnement qui est en train de s'installer et de s'appliquer à des enjeux écologiques. et on pourrait tout à fait raisonner avec d'autres catégories. Mais parler de ressources, c'est déjà commencer à appliquer un raisonnement de type économique. La ressource, c'est quelque chose qui s'exploite et qui se gère et qui se valorise. Donc c'est enclencher des rationalités de type calculatoire et de valorisation. Et on n'est plus tout à fait dans la préservation. Enfin, on pourrait raisonner de manière tout à fait différente. On pourrait raisonner en termes de préservation ou de conservation. Raisonner en termes de ressources, c'est déjà commencer à gérer en termes de gestion. Et ce n'est pas tout à fait la même approche.
Est-ce qu'une ressource, ce n'est pas aussi quelque chose qui peut se créer à l'occasion ? Se recréer ?
Oui, tout à fait. Enfin, il y a des travaux, effectivement, et même des programmes ministériels et institutionnels qui travaillent sur ce qu'ils appellent recréer la nature. Donc, des zones qui ont été épuisées, exploitées, fortement exploitées, il y a des tentatives et les travaux de biologie et d'écologie ont relativement avancé pour permettre de recréer. Donc avec presque une ambition démiurgique, quoi, recréer ce qu'ils appellent de la nature, enfin, qui est plus tout à fait de la nature, mais qui est une forme de recréation de quelque chose qui ressemble à la nature. Une simulation, diraient certains philosophes un peu critiques.
Andreas, est-ce que cette notion de gestion de ressources est quelque chose qui peut être une inspiration pour un auteur comme toi ?
Je pense la question fondamentale est comment faire une sorte de cycle. Parce que si on a une ressource limitée, n'importe comment, si on utilise cette ressource, ça va être disparu un jour. Alors, il faut installer un cycle et pour quelques métaux très rares, choses comme ça. Et c'est qu'on appelle déchet aujourd'hui, peut être une ressource de demain. Le seul aide qu'il faut avoir, c'est assez de l'énergie. C'est le point essentiel. Si on n'a pas d'énergie, on va mourir.
Jean-Marc, je devine que le terme de gestion n'est pas non plus ton terme préféré.
Oui, là. Oui, non, je ne l'emploie pas tous les jours. Hein. Effectivement. Et gestion des ressources, moi, ça m'évoque un exemple. On parlait de systèmes fermés tout à l'heure, qui sont donc voués à s'éteindre, à disparaître. Et j'ai un exemple de système fermé d'exploitation des ressources que tout le monde connaît d'ailleurs et qui s'est écroulé de lui-même et qui est peut-être un signal ou un indice de ce qui pourrait arriver plus globalement si on ne fait pas plus attention, ce qui est évidemment l'extinction de la civilisation pascouane, donc de l'île de Pâques. L'île de Pâques était à l'origine une belle île giboyeuse, verdoyante, avec d'épaisses forêts, une mer poissonneuse, etc., etc. Et donc à peu près 4000 km, je crois, des côtes les plus proches, donc très isolées. Et les habitants de cette île de Pâques ont exploité les ressources de l'île sans vergogne et sans aucunement penser au lendemain, tant qu'il y en a eu. Et plus les ressources se sont raréfiées et plus la civilisation en question est devenue agressive envers elle-même. En fait, au début, les Pascans, ils coupaient les arbres pour fabriquer des pirogues, pour aller pêcher les poissons autour de l'île, et aussi pour dresser leurs fameuses statues, d'ailleurs, qui sont peut-être vers la fin de cette civilisation. Et on se demande d'ailleurs si c'était pas une espèce d'appel à l'aide aux dieux d'au-delà de l'horizon. Ça pourrait être une très belle histoire de SF, la civilisation de l'île de Pâques. L'appel au secours final, je le trouve magnifique. Enfin, c'est une théorie, mais je la trouve très belle pour un auteur de science-fiction. Et donc, on suppose, d'après les traces qu'on en a, que la civilisation de l'île de Pâques s'est achevée dans l'horreur, la douleur, les luttes permanentes, quand le dernier arbre a été abattu, quand le pin de terre a été pillé, quand le dernier poisson à portée de pirogue a été pêché et que la dernière pirogue a coulé et que c'était plus possible d'en construire une autre parce qu'il n'y avait plus d'arbres. il y a peut-être eu du cannibalisme, il y a eu en tout cas des luttes fratricides terribles et cette société s'est éteinte dans la violence et la douleur. Simplement parce que les Pascons n'ont pas su gérer leurs ressources. Donc, je trouve que ça fait un peu une allégorie de ce qui pourrait se passer sur la planète globalement dans un avenir plus ou moins proche. Déjà, quand il n'y aura plus de pétrole, ça, Andreas nous en parlera peut-être plus en détail. Il a écrit un magnifique roman sur le sujet. Et bon, il y a l'eau aussi, qui est une ressource limitée, quoi qu'on en pense. Parce que l'exploitation de l'eau de pluie ou de l'eau de mer coûte de l'énergie, et cette énergie est elle-même limitée. Je pense aussi notamment aux métaux rares qui servent dans les ordinateurs, les téléphones portables, etc. etc. dont les ressources sont aussi extrêmement limitées. Et les métaux moins rares, l'or, le fer, le cuivre, qui un beau jour vont disparaître, et toutes ces disparitions auront lieu au cours de ce siècle. Sauf peut-être le fer qui est encore assez abondant, mais un grand nombre de métaux rares vont disparaître au cours de ce siècle. Et le pétrole, etc. Et donc, y a des ressources illimitées, en revanche, qui se renouvellent en permanence, qui sont le soleil, le vent, la nature, la production naturelle. Mais là encore, si on en parle en termes de gestion, ça implique un système, ça implique une distribution, ça implique une tarification, ça implique un coût d'investissement, une centralisation, une mise en réseau, etc., etc. Là, on en parlait déjà ce matin. L'énergie du soleil est gratuite et illimitée pour tous. C'est l'énergie la plus abondante de loin sur la Terre. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté à la fois industrielle et gouvernementale de produire nous-mêmes notre énergie solaire. On n'arrête pas de voir des publicités pour des panneaux solaires. Installez des panneaux solaires sur vos maisons, etc. Produisez vous-même votre propre électricité. Mais le système qu'on nous propose, en général, c'est, vous installez des panneaux solaires, vous produisez votre propre électricité, vous la vendez à EDF au prix au-dessus du réseau, donc vous faites du fric, et puis vous continuez quand même de payer l'électricité à EDF, parce que quand même, l'électricité, c'est pas vous-même qui allez vous en occuper, quoi. Gérer vous-même votre maison et votre production électrique, c'est totalement antiproductif dans le cadre de nos sociétés actuelles.
Il me semble qu'il y a quand même une différence entre les différents exemples que tu as cités. Si on parle de l'eau, par exemple, tu parlais de l'eau, de l'énergie, on sait aujourd'hui recycler l'eau, on sait désaliniser l'eau, on sait produire de l'eau. C'est une question d'investissement relativement massif à moyen terme. D'une certaine façon, on sait aussi produire de l'énergie. Tu parlais de métaux rares. Là, on est dans un cas de quantité limitée sur Terre. On pourrait imaginer des solutions pour aller chercher des métaux rares là où ils sont, par exemple dans les astéroïdes. Mais là, on parlerait d'investissement, de développement de technologies à beaucoup plus long terme. C'est à l'échelle de quelques générations, en tout cas d'au moins deux générations pour être capable d'aller sur... Et ça me ramène effectivement à Yannick, mais au second thème de notre table ronde.
C'est à peine une blague ce que tu viens de dire. Il existe déjà des sociétés américaines qui sont en train de collecter des financements pour aller chercher effectivement des minerais sur des astéroïdes. Bien donc sûr. Sous forme de programmes spatiaux que tu as dû voir passer.
Non, ce sont des questions qui on a des solutions. Toutes ces questions posent des problèmes politiques majeurs. Effectivement, on parle de programmes à plusieurs centaines de milliards de dollars. Mettre 100 milliards de dollars sur la table, c'est pas forcément à la portée de toutes les civilisations. Et il y a un choix politique à faire. Avec 100 milliards de dollars, on peut sans doute aller chercher des métaux rares dans les astéroïdes, mais on est aussi capable de faire beaucoup d'autres choses qui seraient utiles sur Terre aujourd'hui. Donc ça m'amène donc au second terme de notre table ronde. On parlait de ressources limitées et démocratie. Est-ce que ce n'est pas effectivement un problème de politique, avant tout, plutôt qu'un problème de ressources physiques et de choix générationnels? Dans les générations, jusqu'à présent, la question ne se posait pas. Chaque génération laissait à la génération suivante ce qu'elle avait reçu, et même un peu plus, parce qu'une certaine croyance dans le progrès nous faisait admettre qu'on avait au moins accumulé des connaissances, accumulé des œuvres d'art, et que chaque génération recevait de celle qu'elle a précédée un peu plus que la génération précédente. Aujourd'hui, on est dans une situation où beaucoup de gens ont l'impression, en tout cas, que les prochaines générations sont plutôt plus mal loties que celles qui les précèdent, et que les choix d'investissement à moyen et long terme semblent de plus en plus délicats. Toi, en tant que spécialiste de sciences politiques, comment interprètes-tu ce genre de choses ? Est-ce qu'on est dans un processus de type romain, de décadence, où une génération a choisi de se voter des pains et des vœux, des jeux, advienne que pourra, et tant pis pour les générations suivantes ? Est-ce que c'est une situation politique particulière qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu très difficile de préparer la planète pour les générations à venir et qu'il faut développer et inventer de nouveaux systèmes politiques ? Quelle est la situation ?
Je dirais que décadence, l'avenir nous le dira, mais je pense qu'on est à une période de... Enfin, c'est en ce moment qu'il faut faire des choix. Enfin, on sent qu'on est à une période de basculement et qu'il y a des choses qui sont en train de se décider. Et selon l'orientation qu'on va prendre, ce sera soit un choix positif, soit un choix irrémédiablement négatif. Mais c'est en ce moment que les choix sont à faire, et que ce soit en matière climatique, en matière effectivement de ce qu'on a dit sur ces ressources rares. Alors, pour situer le débat sur le terrain politique, effectivement, c'est une question qui est éminemment politique. C'est la question, effectivement, comment un collectif prend en charge des raretés. Et on sait que la gestion des raretés peut déboucher, effectivement, sur des situations assez rapidement conflictuelles. Et plus ces ressources sont rares, plus les tensions et plus les conflits risquent d'être attisés. Alors, en termes de gestion des ressources, si on est optimiste, on peut considérer qu'il y a des processus qui ont été déjà enclenchés. Mais donc pour en remettre une couche par rapport à ce que je disais tout à l'heure, enfin, les processus qui sont enclenchés en termes de gestion des ressources peuvent eux-mêmes poser question. Enfin, on est en train de faire des choix qui méritent interrogation. Pour raisonner non plus en tant que politiste, mais pour raisonner avec des catégories d'économistes, grosso modo, quand vous êtes économiste et que vous avez un problème d'allocation des ressources, pour parler comme les économistes, il y a deux modalités. Il y a ce qu'on appelle la régulation par les quantités ou la régulation par les prix. Ce sont des voies qui sont actuellement explorées sous différentes formes. La régulation par les quantités, c'est vous fixez une quantité maximale exploitable sur un stock et vous répartissez sous forme de quotas, avec des quotas qui éventuellement peuvent être échangés sur un marché pour installer une espèce de mécanisme marchand. C'est le principe qui a été choisi pour le protocole de Kyoto et qui était censé nous aider à réguler les émissions de gaz à effet de serre. Bon, on voit tout à fait comment ça fonctionne et tous les effets pervers qui sont générés et le peu d'efficacité du processus et du système.
Ça bon. Rapporte beaucoup et financier.
Oui, voilà. Enfin, effectivement, avec les spéculations que ça génère, avec les mafias qui en ont profité pour détourner une partie de ces flux et de manière relativement habile et sans traçabilité. Donc, c'est porteur d'effets pervers. C'est une véritable usine à gaz à gérer, pour le coup, sans jouer sur les mots. Donc, mais c'est une belle solution d'économiste qui fonctionne très bien sur le papier. Par contre, les économistes qui ont des très bons modèles mathématiques oublient qu'il y a une variable qui est effectivement la variable politique. Voilà. Et qu'il y a du social. Donc autant un modèle fonctionne sur ordinateur, autant dans la réalité, il y a d'autres variables qui peuvent jouer. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler la régulation par les quantités. Et puis il y a une autre modalité pour gérer des ressources en voie de raréfaction, c'est ce que les économistes appellent la régulation par les prix. Donc vous envoyez... Enfin, le principe est davantage cette fois-ci d'envoyer ce qu'on appelle un signal prix. Donc à nouveau pour reprendre des catégories économiques. Donc vous faites augmenter les prix. Et une des modalités pour faire augmenter les prix, c'est quelque chose qui fait débat aussi actuellement, qui est ce qu'on appelle les écotaxes. Les écotaxes, effectivement, sont une modalité pour inciter des acteurs à modifier les comportements en s'ajustant par les prix. Puisque c'est que chacun, plus c'est cher, moins on est incité à acheter. Et donc effectivement, c'est une autre modalité. Mais... là où moi ça m'intéresse en tant que politiste, c'est aussi ce que j'ai essayé de montrer dans mes travaux, c'est que la domination compris ces deux modalités sont révélateurs d'une rationalité très particulière qui s'est installée, qui est ce que j'ai qualifié tout à l'heure de rationalité gestionnaire et économique. Enfin, c'est le reflet. Donc tout cela fait système. Hein. Donc ce sont des termes que nous utilisons sans nous en rendre compte, mais qui sont révélateurs d'une modalité bien particulière, d'une manière d'appréhender les enjeux environnementaux. On ne s'en rend pas compte, mais parler de ressources, parler de gestion, raisonner en termes de prix, raisonner en termes de calcul, c'est une modalité bien particulière de s'occuper de ressources collectives. Et ça peut poser question. Et à nouveau, d'autres choix sont possibles et d'autres modalités de raisonnement pourraient être éventuellement possibles. Mais il n'y a pas de débat, malheureusement, beaucoup là-dessus.
On voit que les choses deviennent relativement vite, relativement techniques, donc c'est difficile, bien sûr, en quelques minutes.
Je suis désolé, j'ai peut-être perdu des gens en cours de route, et j'espère pas, mais voilà, mais ça fait partie des modes de raisonnement qui sont présents dans les sphères institutionnelles. Et vous n'imaginez pas le degré de raffinement où ça peut arriver. Enfin, on en est à calculer le prix de la tonne de carbone et essayer de trouver le bon prix de la tonne de carbone pour inciter au bon comportement. Donc, et ça, voilà, comment vous achetez une taxe, c'est aussi par rapport à des prix qui sont calculés avec des modèles absolument compliqués, donc des équations, enfin... Je vous épargne, je ne sais pas s'il y a des économistes dans la salle, mais c'est des débats qui peuvent être assez rapidement hyper techniques, en effet.
Du coup, je suis tenté de me demander à nos auteurs si la technicité même de ces problèmes ne fait pas qu'on se retrouve à faire l'équivalent de l'art science fiction, non plus avec des spéculations sur le monde physique et avec la prise en compte des contraintes physiques de l'univers, mais avec la prise en compte de contraintes politiques et économiques dans toute leur technicité. Est-ce que ça change votre façon de spéculer et d'inventer des mondes prenant en compte ces contraintes, ou est-ce qu'on peut encore aujourd'hui avoir une approche light, si j'ose dire, une approche plus poétique ou plus sobre, en tout cas, ne prenant pas en compte toutes ces difficultés techniques?
Tout dépend de l'histoire qu'on veut écrire. Je ne sais pas si on veut écrire une histoire comme Dune où il y a une question de gestion de ressources de l'eau, de la très rare ressource de l'eau dans le désert d'Arrakis. Il y a une approche à la fois technique, quand même, parce que, comment Frank Herbert y a bien pensé, poétique et je dirais ethnologique, quasiment, parce que, bon, Herbert s'est inspiré des modes de vie des peuples du désert, Touareg, etc. Là, on est dans le cadre où on construit un monde où il y a des ressources limitées et une façon de... Donc, on va chercher une façon de gérer ces ressources, peut-être plus ou moins bien. Ça dépend du sujet de l'histoire. On peut penser qu'elles sont mal gérées, que ça va générer des conflits, que ça va être le moteur de l'histoire, que le héros va finir par sauver la planète et sauver le monde en résolvant les conflits ou en trouvant ennemis inattendus, etc. Si on traite de la réalité, forcément, on s'approche de la hard science. Effectivement, quand j'ai écrit à quoi et que j'ai voulu aborder justement le problème de l'eau en tant que ressource manquante ou du moins difficilement exploitable au niveau de la planète, j'ai dû bouquiner des dizaines de bouquins, essayer de comprendre moi-même comment l'eau, un élément qui paraît si abondant, peut arriver à manquer à un moment donné, ou du moins à être difficilement exploitable à un coût supportable par un pays pas développé. En l'occurrence, dans Aqua, c'est le Burkina Faso, un des pays les plus pauvres du monde. Donc, pourquoi ces pays-là... proche du désert ou voire inondés d'eau comme le Bangladesh, pouvaient manquer d'eau potable à ce point et qu'au point qu'il y ait des centaines de milliers de morts par jour du fait du manque d'eau potable, du manque d'assainissement, etc. Pourquoi l'eau, ressource si abondante, n'est pas gratuite partout? Pourquoi elle est prise en charge par des réseaux et qu'elle est tarifée au prix fort dans les foyers? Pourquoi il ne faut pas la gaspiller? Enfin, toutes ces questions-là sont à la fois techniques, parce que ben, il faut apprendre qu'est-ce que c'est qu'un réseau de distribution d'eau, comment et à quel prix on peut dessaler l'eau de mer, comment et de quelle façon l'eau de pluie peut être récupérée, traitée, réutilisée, etc. Qu'est-ce que l'assainissement? Tout ça, c'est des questions techniques. Et puis, évidemment, la dimension politique qui fait qu'il y a des trusts, des compagnies, des sociétés, voire des mafias qui mettent la main sur le robinet et qui peuvent décimer, assoiffer des populations ou les pressurer jusqu'à la moelle. Bon, on a vu ça en Amérique du Sud. Il y a eu dans des favelas et tout, le prix de l'eau avait tellement augmenté que les habitants eux-mêmes ont carrément coupé les tuyaux d'eau, enlevé le frein qui empêchait l'eau d'être distribuée pour se servir eux-mêmes, quoi. Ils ont squeezé les compagnies de distribution de l'eau parce que le prix de l'eau était devenu inabordable, quoi. Ils ont carrément piraté le circuit, quoi. Donc là, c'était le début d'une guerre de l'eau, quelque part. Bon, il n'y a pas eu de conflit, mais mettons que ce circuit d'eau aurait été aux mains d'une mafia quelconque qui a envoyé ses gros bras dans les favelas pour empêcher ça. Enfin, je veux dire, on a vite fait de quand il s'agit d'une ressource qui se raréfie et qui manque, d'entrer dans une situation de conflit. Alors après, qui détient la ressource, qui en a besoin, comment l'obtenir et y a-t-il moyen de s'en passer? Je pense que la sortie de crise, c'est y a-t-il moyen de s'en passer? Peut-on trouver quelque chose d'équivalent? Cette ressource est-elle vraiment nécessaire? Et si oui, comment la trouver? Enfin voilà, je pense, je ne sais plus si j'ai vraiment répondu à la question d'ailleurs.
Andreas, tu es aussi amené à faire étudier une documentation très précise en matière économique et sociale pour écrire tes romans, ou est-ce que tu cherches plutôt le côté humain ou un mélange des deux?
Non, la question d'économie, c'est la base de beaucoup de mes romans, parce que ça peut rendre un monde qu'on a inventé réalistique. Moi, je pense les solutions, supposé il existe des solutions, c'est dans le rayon d'économie et de démocratie, le consensus pour comment gérer les problèmes, ça va au moins trouver la meilleure solution. Mais le péril, c'est il est possible qu'une sorte de mafia, une sorte de corruption, oui, comme il a dit, mette le main sur la ressource pour un profit d'aujourd'hui et peu importe de l'avenir. Et par exemple, si peut-être c'est possible de gagner certains métaux des astéroïdes, mais quand il faut avoir ces métaux pour construire la machine, pour aller là, et on n'a plus des ressources pour aller là, bon, ça, c'est pas une solution.
Dans ce cadre, pour toi, est-ce que la science-fiction est un instrument pour mettre en garde l'humanité contre des dangers actuels ou futurs? Ou est-ce que c'est un outil de spéculation? Ça reste un outil de spéculation, des expériences de pensée. Yannick nous disait tout à l'heure que les économistes faisaient tourner des modèles très sophistiqués sans toujours être capables de prendre en compte les éléments politiques et humains. Est-ce que la science-fiction a un statut de suppléant de la science ou de la science économique pour réfléchir à ces questions? Quel est le statut de ces œuvres pour toi? Quelle est l'ambition de tes à tous les deux?
Ça dépend de l'idée. Parfois, on a vraiment un autre sujet que l'imagination du futur. On est intéressé aux relations entre des gens et choses comme ça, et on met cet scénario dans un futur pour souligner certains aspects qu'on ne peut pas dans une autre manière. Mais il y a aussi des romans qui sont écrits sous l'idée d'un certain développement dans une direction ou l'autre, mais on essaie des scénarios pour chauffer l'imagination un peu et pour on essaie de créer une scénario qu'on peut imaginer vraiment pas faisable, possible, mais si y a un scénario où cet monde on dessine est cohérent. Oui, bah, c'est pas des contradictions.
Nick?
Oui, l'intérêt de la science-fiction, effectivement, c'est qu'elle peut proposer des imaginaires différents qui peuvent paraître parfois enfouis, qu'on peut faire réémerger. Je vais prendre un exemple pour montrer effectivement qu'on peut raisonner dans des termes différents. Donc, si vous m'avez suivi, si on raisonne en termes de ressources et en termes de gestion des ressources, ça veut dire qu'il y a des acteurs qui se positionnent comme étant des gestionnaires de ces ressources. Donc, ce qui amène vers à nouveau des anciennes catégories, qui sont les catégories de propriété et d'appropriation. Il y a un schéma binaire qui fonctionne assez bien dans ces cas-là, c'est soit on est dans un régime de propriété privée, soit dans un régime de propriété publique. Mais on pourrait tout à fait penser qu'il y aurait une troisième voie qui a été abandonnée, qui remonte très loin dans l'histoire, mais qui commence un petit peu à réapparaître actuellement dans des travaux un peu philosophiques et théoriques, qui est la voie de ce qu'on appelle les communs. Donc, peut-être avez-vous entendu parler effectivement de ces anciennes pratiques qui consistaient à allouer des terres à des collectifs et à les gérer de manière collective. Et c'est ce qu'on appelait effectivement des communaux. Donc il y a toute une série de réflexions intéressantes qui réémergent actuellement sur la manière effectivement de gérer l'eau, mais comme un bien commun qui ne soit ni privé ni public. Et là, pour le coup, c'est véritablement un enjeu démocratique. Donc ça veut dire que chaque personne dans la population se préoccupe de ce bien commun, en prend soin, s'y attache dans sa vie quotidienne pour qu'effectivement ce bien commun soit préservé pour ce qu'on appelle les générations futures. Donc c'est une troisième voie qui commence à, sur laquelle je travaille un petit peu, qui commence à susciter quelques réflexions qu'on pourrait considérer comme une espèce de voie latérale, médiane, en dehors des catégories anciennes qui faisaient la répartition binaire entre propriété publique et propriété privée. Et pour déboucher sur la science-fiction, peut-être que certains d'entre vous ont lu un roman d'Ursula Le Guin qui s'appelle Les Dépossédés, qui effectivement décrit de manière assez intéressante une situation d'une communauté, donc sur une lutte, sur une lune, pardon, une ancienne lune minière qui se retrouve complètement raréfiée, et qui décrit effectivement comment est-ce que fait une communauté pour gérer une situation de pénurie, de rareté. Alors certes, c'est la frugalité, et certes, c'est pas drôle tous les jours, il y a des contraintes, et de fait, c'est pas une société qui est forcément riante, mais c'est une manière de gérer une ressource comme un bien commun, avec un certain nombre de contraintes qui sont prises en charge, pour le coup, collectivement, et avec l'assumation d'un choix collectif qui est fait par chacun des membres de cette collectivité. Et c'est ce que nous décrit à certains égards Ursula Le Guin dans Les Dépossédés.
On trouve beaucoup d'autres exemples de science-fiction, y compris des cas limites. Je pense par exemple à Révolte sur la Lune de Robert Heinlein, dont l'économie est basée sur le fait que sur la Lune, il n'y a ni air ni eau, et qui est essentiellement une expérience de pensée sur la création d'une société sans ressources.
Sauf qu'Heinlein, à partir de ces mêmes prémices, en tire des conclusions différentes. Enfin, lui s'oriente plutôt vers une solution qui serait une solution marchande, si on le suit bien. Enfin, c'est son tropisme. Enfin, moi, tu connais ça mieux que moi, son tropisme.
En l'occurrence, ça serait presque une solution anarchiste dans Révolte sur la Lune.
Mais la version libertarienne plutôt qu'anarchiste, je dirais, si on voulait faire des raffinements théoriques. Enfin, voilà. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. Enfin,
non.
Puisque tu es meilleur connaisseur que moi.
Non, pas nécessairement. Je reste sur la notion d'expérience de pensée. Est-ce que c'est quelque chose qui est utile aux sciences sociales? Est-ce que les expériences de pensée que propose la science-fiction, qu'elles soient plus ou moins extrêmes, peuvent être un outil pour le chercheur politiste, ou est-ce que c'est simplement du déplacement?
De fait, moi, dans mes travaux récents, je le prends comme tel, et de manière assez intéressante. C'est pas encore beaucoup fait en France, mais il y a des travaux dans le monde anglo-saxon qui effectivement construisent des espèces de scénarios de science-fiction et les font comme des expériences de pensée. Je pense notamment au travail qui a été fait, qui n'a pas encore été traduit en français, d'une dame qui s'appelle Naomi Oreskes, dont on commence à accéder à certaines de ses travaux en français, notamment un bouquin qu'elle a appelé Les marchands de doute, qui étudie ce mouvement qu'on qualifie de climato-sceptique. Et elle montre très bien dans son bouquin comment ce mouvement soi-disant climato-sceptique en fait est quasiment manipulé, instrumentalisé par des lobbies qui ont des masses financières très puissantes pour orienter justement les débats dans des directions qui sont, alors qu'il n'y a quasiment plus de controverses, quoi. Enfin, dans les milieux scientifiques et dans les travaux du GIEC, il y a une quasi absence de controverses sur le fait que le réchauffement climatique est déjà largement bien emballé. Et donc, pour revenir aux travaux de Naomi Oreskes, il y a un article assez récent qui est disponible en anglais qui se positionne dans le futur et qui construit une espèce de petite histoire. Donc c'est je ne sais plus combien de centaines d'années après, et qui essaie de faire l'espèce de parcours entre aujourd'hui et dans, je sais plus, 100, 150 ans, et qui se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Et qu'est-ce qui fait que, je parlais tout à l'heure de période de basculement, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas su décider? Et elle le construit effectivement comme une expérience de pensée. Donc comment est-ce qu'on analyse la situation actuelle, et qu'est-ce qui fait que notre situation actuelle est une situation où on n'aurait pas su décider? Et effectivement, dans le monde qu'elle décrit, donc 150 ans plus tard, c'est la société qui n'a pas réussi à gérer ce dilemme, et qui se retrouve dans une situation, pour le coup, catastrophique. Bon, en se posant la ma question à rebours. Qu'est-ce qui fait que nos contemporains ne savent pas, et que nous-mêmes d'ailleurs, nous sommes pris dans des dilemmes que nous n'arrivons pas à prendre en charge, collectivement pour le coup?
On est revenu à plusieurs reprises sur l'idée qu'on avait besoin maintenant de changement de point de vue, de changement de politique, et non seulement de choix politiques, mais de méthodes démocratiques et de conception de la démocratie. Est-ce qu'on a des outils politiques aujourd'hui pour penser ce que pourraient être les méthodes qui nous permettraient de changer complètement notre modèle politique? Est-ce que ça passe nécessairement par une révolution? Est-ce qu'on a des processus démocratiques qui permettent de modifier la démocratie elle-même?
Un des enjeux, comme je le disais, ça sera effectivement la modification. Ce n'est pas qu'une question écologique. Derrière la question écologique, il y a effectivement des gros enjeux démocratiques. Les révolutions montrent historiquement que, en fait, ce sont le remplacement d'anciennes catégories dirigeantes par de nouvelles catégories dirigeantes qui ne changent pas forcément fondamentalement les problèmes. Et c'est pour ça que la catégorie de commun, elle est très intéressante, parce que pour le coup, derrière cette catégorie de commun, c'est aussi un autre mode de fonctionnement collectif. Donc, peut-être le sentez-vous intuitivement. Si on sort des modes de fonctionnement d'appropriation privée et si on sort des modes de fonctionnement étatiques, c'est une autre modalité de qualifier ce que c'est que la démocratie. Parce que on a une définition de la démocratie actuelle qui est une définition représentative. Nous faisons quasiment... nous considérons que démocratie et système représentatif sont synonymes, mais on pourrait tout à fait imaginer d'autres manières de qualifier ce que c'est qu'une démocratie. Et c'est par exemple ce à quoi réfléchissent... Il y a des réflexions très intéressantes dans les partis pirates sur, par exemple, ce qu'ils appellent la démocratie liquide. Donc plutôt que de déléguer une fois pour toutes une forme de confiance pour une durée déterminée à un représentant, on pourrait tout à fait envisager des formes de délégation à géométrie variable. Donc en accordant des formes de confiance à quelqu'un dont on estime qu'il est compétent pour un sujet, et pour une période déterminée, pour ce sujet déterminé, on lui dit « je te fais confiance, tu es compétent, et je te délègue en quelque sorte la capacité à négocier sur ce sujet pour moi. » Donc moyennant une dose d'information minimale pour être sûr que la personne quand même... est relativement compétent sur le sujet. Mais ça pourrait être une autre modalité de gérer des enjeux collectifs. Donc c'est une forme d'expérimentation. Je ne dis pas qu'elle est forcément... Et d'ailleurs, elle est aussi porteuse d'effets un peu pervers, mais c'est une autre modalité sur laquelle on pourrait réfléchir.
Mais c'est aussi une bonne méthode pour disperser la responsabilité. Et à la fin, personne n'est responsable pour quelque chose. Comme j'ai observé cette démocratie liquide des pirates, c'est, à mon avis, c'est le résultat, c'est cette discussion est dominée par les gens qui ont trop de temps, et ils ont trop de temps pour une raison, et c'est pas une raison favorable.
Un des aspects pervers, effectivement, de ce type de mode de fonctionnement, c'est de recréer effectivement des formes d'expertocratie, effectivement. Qui se dédient à ces sujets, c'est les gens, comme l'on disait, qui ont le temps, qui ont les compétences intellectuelles. Donc on retombe sur des formes d'inégalité en termes de compétences, de ressources personnelles, de connaissances accumulées. Enfin, voilà, des enjeux classiques en sciences politiques.
Et moi, j'avais pensé à un moment, j'avais dans l'idée d'écrire un roman utopique qui pour l'instant est en sommeil, mais que je vais... peut-être sortir du tiroir bientôt parce que trop de désespoir tue l'espoir finalement, hein. Et que à force de catastrophe, une fois qu'on aura atteint le fond du gouffre, il faudra bien rebondir et peut-être bâtir une société. Et j'avais réfléchi à ce problème de démocratie justement et aux diverses formes de société de démocratie plus ou moins directe qui était nécessaire pour faire fonctionner une société. Donc mon utopie est en construction, parce qu'une utopie établie vire quelque part au totalitarisme. Je crois que c'était le sujet d'un autre débat ici même hier, il me semble. Et la forme d'État de gouvernement plutôt que j'avais imaginé pour ce roman, c'était une démocratie directe en réseau. En fait, le réseau permettait à tout citoyen de s'exprimer à tout moment sur tout sujet. Il y avait des représentants quand même quelque part qui était élu au suffrage direct par les réseaux pour un temps limité, qui était plus ou moins responsable collectivement de la gestion de telle ou telle région. Il n'y avait pas d'État centralisé, hein. C'était uniquement sous forme de tribus, villages, à la rigueur région, mais pas plus loin. Et toute décision de ce conseil des sages d'environ 12 personnes, plus ou moins, concernant un tout projet quel qu'il soit, était immédiatement soumise au vote sur le réseau. Donc tout le monde pouvait débattre, donner son opinion et puis donc voter ou amender le projet, etc. Donc cette démocratie était vraiment l'expression de l'ensemble des citoyens. Et j'ai trouvé que c'était vraiment juste et que ça fonctionnait très bien jusqu'au moment où, dans mon histoire que j'avais prévue, tout d'un coup survenait une urgence. Mettons, voilà, un ouragan dévaste un village, il y a des morts, des blessés, il faut intervenir en urgence. Qui fait quoi, comment, où? Et là, tout le monde a urgemment débattu sur le réseau, et pendant que tout le monde débattait urgemment et puis votait urgemment, eh ben, les gens étaient en train de mourir, quoi. Il n'y avait pas de responsable. Donc, ou du moins, les responsables n'osaient pas agir tant qu'ils n'avaient pas le consensus général, quoi. Donc, je me suis dit, ouais, c'est un beau système tant que tout va bien, mais quand il y a tout d'un coup quelque chose d'urgent, de grave à gérer, qui est le responsable, quoi? Qui va prendre la décision, peut-être pas démocratique, peut-être que cette décision risque de coûter la vie à certaines personnes, peut-être pour en sauver des milliers d'autres, ou de détruire quelque chose auquel on tient, mais pour sauver peut-être tout l'ensemble d'une région, etc. Il y a un immense incendie. Peut-être la seule solution d'arrêter l'incendie, c'est de faire exploser une bombe pour souffler le feu, mais ça va détruire quelque chose. Des fois, il y a des décisions qui sont graves et difficiles à prendre et qui doivent être prises dans l'urgence.
Et malheureusement, il n'y a pas de solution miracle.
Je ne sais pas si on peut trouver un gouvernement idéal. Je crois que la recherche du gouvernement idéal, c'est comme la recherche du bonheur pour tous ou la recherche de l'utopie. C'est une recherche éternelle vers toujours plus d'amélioration, mais la perfection, on ne l'atteindra jamais.
Je crois malheureusement que ce sont des sujets vertigineux qu'on a pu qu'effleurer et dont on n'espérait même pas avoir une chance de faire le tour en quelques minutes. Plutôt que de refaire un tour de table, je suis tenté de vous demander s'il y a des questions, prendre le temps de questionner nos invités. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur ?
Micro-baladeur.
Merci. Ici.
Oui, bonjour. Voilà, je souhaitais juste rebondir un petit peu sur les ressources en eau, justement. La question qui me venait à l'esprit, c'était de dire si demain on peut faire de l'énergie avec de l'eau. On entend parler du moteur à eau, etc. Si toutefois c'est possible. Justement, est-ce que les ressources en eau ne seraient pas dangereusement mis en péril, et peut-être comment pourrait-on les gérer, quoi, un petit peu ? C'est ma question. Est-ce que ça peut faire peur ou pas, justement? Parce que est-ce que le monde s'appauvrirait du fait qu'on n'ait plus d'eau? Est-ce que ce serait recyclé en forme de pluie derrière? Voilà.
Bah, on tire déjà de l'énergie de l'eau, hein. C'est les barrages hydroélectriques. Hein.
Oui, mais je parle sous forme de combustion, comme les moteurs, les choses comme ça. Est-ce que ça pourrait justement poser un problème d'utiliser l'eau comme énergie, entre parenthèses, pétrolifère, quoi.
Vous voyez un peu l'utilisation de l'eau comme on utiliserait le pétrole aujourd'hui, par exemple. Là, je ne pense pas que ce soit tellement possible. Disons que on pourrait utiliser l'eau de la même façon que le pétrole, Par exemple, dans les moteurs à hydrogène, où l'hydrogène serait issu de la catalyse de l'eau. Donc ce serait effectivement d'une façon indirecte des moteurs à eau, où l'eau serait le carburant de base qui serait catalysé, et donc pour produire un carburant secondaire qui est l'hydrogène. Tu me dis si je me plante, hein. Ça va jusqu'à
là? Non, c'est surtout une manière de sauvegarder l'énergie, de catalyser l'eau dans oxygène et hydrogène, et après, si on a besoin d'énergie, on les combine encore une fois.
Je crois qu'aujourd'hui, on a un problème d'eau douce, on n'a pas de problème d'eau. Ce n'est pas tout à fait par hasard qu'on parle de la planète bleue. On a quelque chose comme un quintillion de tonnes d'eau disponible sur Terre. Alors, c'est majoritairement de l'eau salée, mais on n'est pas encore prêt de manquer d'eau, et même si on s'en sert, même si on la gaspille outrageusement. En revanche, on a un problème d'eau douce. Donc, le problème, c'est éventuellement d'adoucissement de l'eau.
Oui, exactement. Le problème de l'eau, ce n'est pas le problème du manque d'eau en général. Et de l'eau utilisée pour faire fonctionner des moteurs, ce ne serait pas nécessairement de l'eau potable. Le problème là, c'est d'approvisionnement en eau potable. Comment effectivement l'extraire, la distribuer d'une façon équitable, ne pas la gaspiller, parce que, disons que sur toute la quantité d'eau qu'il y a sur la planète, je crois qu'il y a seulement 1% d'eau potable, et que ce 1% d'eau potable, on peut en exploiter actuellement que 10% de ce 1%. Donc la quantité d'eau disponible, voilà, directement pour boire ou pour se laver est effectivement relativement limitée, sauf si il y a des efforts qui sont faits pour récupérer, filtrer et purifier l'eau de pluie, ou dessaler l'eau de mer à un moindre coût. Mais pour l'instant, le dessalage de l'eau de mer, c'est quelque chose qui est utilisé, par exemple, dans les Émirats arabes, mais au prix d'une bonne grosse consommation de pétrole, quand même. Hein.
Une autre question ? Bon.
Bonsoir. La question, c'est de savoir, est-ce que le fait que les hommes politiques soient des professionnels de la politique n'est pas un frein à remise en cause d'un système, puisque logiquement ça devrait remettre en cause leur propre carrière?
Question pour Yannick, j'imagine.
Oui, enfin, on peut tout à fait faire l'hypothèse qu'effectivement le fait que ce soit les professionnels qui en plus sont sur des schémas de pensée qui datent largement encore du siècle dernier est un élément de non-renouvellement des perspectives. Ça, l'hypothèse est assez facilement, empiriquement même, vérifiable. Oui, tout à fait. Donc c'est un élément de verrouillage du système. On a des catégories en sciences politiques pour expliquer ce type de phénomène, notamment ce qu'on appelle chez nous les phénomènes de lock-in ou de dépendance au sentier. Et on peut effectivement considérer que ce soit des professionnels installés quasiment à vie qui participent à ces phénomènes de dépendance au sentier, d'enfermement dans des trajectoires particulières. Donc,
Est-ce qu'il existe des alternatives connues des politistes ?
Oui, enfin, il y a des moyens dans des situations particulières de sortir de ces dépendances, mais c'est jouer sur des variables de contexte, effectivement, des situations de troubles qui permettent effectivement de renouveler une partie de l'élite. Donc typiquement des situations insurrectionnelles, révolutionnaires, qui font qu'on peut plus ou moins provisoirement changer de personnel dirigeant, quoi. Mais c'est un des problèmes récurrents, c'est qu'une fois qu'on est sur une trajectoire, changer de trajectoire, c'est extrêmement compliqué, quoi. Il y a des forces d'inertie qui sont telles que c'est comme les paquebots, quoi. Enfin, un paquebot, pour le faire changer de direction, c'est extrêmement compliqué.
D'autres questions ?
C'est une réaction par rapport à votre utopie et donc la situation d'urgence.
Un peu plus fort, s'il vous plaît.
Pardon. Dans une démocratie directe, ça serait difficile de gérer un imprévu parce que tout le monde doit s'exprimer, on doit arriver à un consensus. Et l'image de Katrina m'est venue en tête, où là on est dans une société où les choses sont tout à fait organisées, avec une jolie pyramide décisionnelle. Et pourtant, il y a eu des dégâts énormes, des populations délaissées. Parce que l'événement, en fait, n'avait pas été prévu, tout simplement. Donc je me demande si tout ce qui est écologique, si tout ce qui est de l'ordre du manque de ressources ou les catastrophes qui mènent à des déplacements de population ne sont pas simplement des impensés politiques, quel que soit le système politique dans lequel on se trouve.
C'est pour moi la question. je peux répondre par rapport à Katrina. C'est effectivement une totale imprévision de la part de l'administration américaine et du système politique américain, sorti d'une sous-estimation à la fois dramatique et éhontée de l'administration Bush de l'époque. Et en plus, je dirais, d'un je m'en foutisme virant au racisme de base, parce que ça se passait en Louisiane et que la population de la Nouvelle-Orléans concernée était en majorité noire. J'étais tellement révolté par l'attitude de l'administration Bush que je m'étonne que cet enfoiré n'ait pas été assassiné dans l'heure. C'est une totale imprévoyance, quoi. C'est une totale imprévoyance un règlement, un non-règlement de la situation éhontée, quoi. Éhontée. Alors, ceci dit, est-ce que le propre de tout système politique est de ne pas prévoir l'imprévisible? Moi, je pense qu'effectivement, c'est le cas. On compte sur les systèmes de secours pour venir en aide aux populations et sur les assurances pour régler le problème à plus long terme. Les gouvernements ne s'estiment pas avoir vocation à prévoir l'imprévisible. Et puis, on peut aussi citer l'exemple de Fukushima, où il y avait une chance sur 1 million qu'un raz-de-marée détruise la centrale. Donc, une chance sur 1 million, on pouvait estimer qu'on pouvait... tout à fait prendre le risque de construire cette centrale au bord de la mer. Voyons, il n'y a jamais de séisme, il n'y a jamais de raz-de-marée au Japon. Hein. Voilà aussi un manque total d'imprévision. Une chance sur 1 million, c'est pas une chance, c'est pas zéro chance. Il y a une chance sur je ne sais plus combien, 13 milliards ou 13 millions, je crois simplement, qu'une personne lambda gagne l'auto. Il y a des gens qui gagnent l'auto toutes les semaines hein, quand même. Donc voilà, je pense que, je ne sais pas si un bon gouvernement devrait peut-être avoir une cellule de crise prête à intervenir en permanence, une espèce de caserne de pompiers gouvernementale prête à intervenir dès que une situation imprévue et catastrophique intervient. Je ne pense pas que ce soit le cas.
Elles existent de fait. De plus en plus, l'ensemble des gouvernements ont ce type de cellule de crise qui fonctionne de manière quasiment récurrente. Et même au niveau européen, il y a des structures qui sont de plus en plus présentes pour gérer de manière anticipée ce type de crise. Donc,
autant pour moi. Alors.
Après, certes, c'est une question de moyens. Si ça vous intéresse, il y a un bouquin très intéressant sur la manière dont a été géré l'ouragan Katrina d'un historien qui s'appelle Romain Huret, H-U-R-E-T. Et lui, l'interprétation qu'il en fait, je force un peu le trait, mais c'était carrément une guerre contre les pauvres. Enfin, le choix qui a été fait, bon, vous connaissez tous les politiques à la bouche, qui effectivement étaient des politiques, quasiment des politiques de classe, quoi. Donc, et lui, l'interprétation qu'il en fait, c'est à relier aussi à la manière dont Bush a dégradé les programmes sociaux. Et ça s'inscrit dans le même cadre idéologique, quasiment. Donc avec en plus une baisse des financements de l'agence américaine qui est censée s'occuper des catastrophes, donc qui n'a pas permis effectivement de relever les digues qui existaient déjà. Donc ce sont des choix politiques, pour le coup, hein, clairement.
Peut-être le temps d'une toute dernière question. Je sens la musique qui monte. Non, on n'a pas le temps d'une toute dernière question. Donc je vais vous remercier d'être venu, de votre participation, remercier notre panel. Et puis, c'était une bonne fin de journée de festival. Merci.